Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, est-ce comme Skolimowski, Jerzy Skolimowski, avec Jerzy Skolimowski lui-même et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Serge Danet disait de ses films qu'ils passaient devant nous comme des trains lancés à grande vitesse et qu'on ne pouvait en capturer que le sillage de beauté. Insaisissable, imprévisible, insoumis, irréductible, c'est ainsi qu'est toujours apparu le cinéma de Jerzy Skolimowski. Une filmographie chaotique tout en foisonnement, ruptures et variations dues à un exil forcé qui lança à la fin des années 60 celui qui avait avec Roman Polanski inventé le nouveau cinéma polonais sur les routes d'une carrière erratique d'exilé perpétuel de la Belgique et l'Italie à l'Angleterre et jusqu'aux États-Unis, carrière même longtemps interrompue pendant 17 ans pour se consacrer à la peinture. De Signes particuliers, Néant et Walkover jusqu'à ses derniers films en date, Essential Killing, un saisissant survival dans la neige et 11 minutes décomposition cubiste d'un événement dramatique, Skolimowski a pourtant réussi à construire une œuvre passionnante, tragique et burlesque, poétique et énergique, aventureuse et fantasque, libre et insolente, qui traduit une vision incisive et désenchantée de la société contemporaine dans de fulgurantes idées de mise en scène. Le départ, Deep End, Travail au noir, Le bateau phare, entre autres chefs-d'œuvre, ont marqué le cinéma moderne et contemporain. C'est dire notre bonheur de recevoir le poète et peintre, boxeur et immense cinéaste aventurier, qu'est Jerzy Skolimowski. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous parlera de Time and Tide, le non moins fulgurant film de Tsui Hark qui marqua en 2000 le retour du cinéaste à Hong Kong et dont Carlotta propose une magnifique édition collector en Blu-ray. Mais pour l'heure, retour à la Pologne de 1962, partir à l'armée ou déserter, c'est l'heure du choix.
Który to?
Malicki.
A Leszczyc?
Leszczyca nie ma, nie mieszka już.
Puścimy, puścimy.
Wasze nazwisko?
Leszczyc.
Chodźcie.
Nous sommes dans une salle d'attente avant la visite médicale pour le service militaire. Un jeune homme, on a entendu son nom, Leszczyc, renvoyé de la faculté d'ictiologie où il étudiait, va avoir quelques heures pour décider s'il part à l'armée ou s'il déserte. Cet Andrzej Leszczyc, il va être le héros de vos trois premiers films, Jerzy Skolimowski. C'est vous qui l'interprétez, en tout cas dans les deux premiers. Quel regard vous portez aujourd'hui, Jerzy Skolimowski, sur le jeune homme que vous étiez alors, qui tournait ce film? Film Signe particulier, Néant, votre premier long métrage.
Hello. Yes, I must say I was handsome.
Oui, je veux dire, j'étais beau. C'est vrai.
But of course, it was long time ago.
Mais bien sûr, c'était il y a longtemps.
You have to understand that the very first film.
Que le tout premier film.
I was making as a film.
Que je réalisais en tant qu'élève d'une école de cinéma était sans doute la seule raison pour laquelle j'étais parti faire ces études de cinéma. J'avais un plan secret depuis le début qui était que dès que j'aurais réussi à trouver un petit bout de pellicule, à l'époque on filmait tout sur négatif, il n'y avait pas de vidéo du tout. Et le négatif, c'était ce qu'il y avait de plus cher. Parce qu'il était importé. Il était importé de l'étranger. Et il fallait payer vraiment, vraiment en monnaie, son entité trébuchante. Chaque élève de l'école de cinéma avait droit à un petit peu de ce négatif disponible. Et dès que je pouvais en trouver, je filmais toujours pour compléter le même film. Et naturellement avec moi-même dans le rôle principal, parce que comment aurais-je pu engager un acteur autre qui soit tout le temps disponible pour moi? Et donc je changeais d'apparence. Parfois, chaque fois il fallait absolument pas qu'il change d'apparence, il fallait que j'ai la même coupe de cheveux, il fallait que j'ai vraiment la même apparence. Et toujours porter les mêmes vêtements, qui étaient les miens. J'avais peu d'argent, hein, j'étais pauvre. Et donc, à la fin, les fringues étaient complètement déjantées. Mais je suis arrivé, pendant ces 4 ans, petit bout par petit bout, à réunir et à tourner un film entier, qui est un long métrage, mon premier long métrage. Je suis arrivé non seulement à le monter, mais aussi ce film est allé représenter la Pologne dans beaucoup de festivals, même à New York. Je suis allé au Lincoln Center à New York alors que j'avais pas encore fini mes études de cinéma. C'était un grand succès. Là, à New York, il s'est passé une coïncidence assez drôle. Dans ce festival, dans la programmation, il y avait aussi des films de Jean-Luc Godard. On s'est donc rencontrés. On était au même hôtel. Et on se rencontrait au petit déjeuner régulièrement. Et quand mon film est passé, le lendemain, j'ai eu un article absolument dévastateur, horrible, dans le New York Times, par un très célèbre critique de cinéma, qui disait « Monsieur Skolimowski a été assez aimable pour amener à New York ses rushs ». Il n'avait pas compris le fait que je n'avais pas d'autres moyens de faire ce film. Je n'avais que la possibilité que de tourner petit bout par petit bout, l'un après l'autre. À l'époque, Jean-Luc, quand on s'est rencontrés au matin, m'a dit ne fais pas attention à ces crétins d'Américains. Toi et moi, on est les deux meilleurs réalisateurs du monde. Et je lui ai dit, je veux que tu me l'écrives. Alors il a demandé à une feuille de papier en tête de l'hôtel, le Drake Hotel, et je l'ai toujours. Il m'avait écrit ça, il avait écrit ces mots-là en grandes lettres. Ne fais pas attention aux critiques idiots américains.
Ładna, ładna. A ta pod pociągiem też ładna.
Ja jestem działacz, a tak, tu jest tak, pisemko. Tak.
Działacz, nie działacz, gwagi nie dam.
Panie, niech pan przeczyta to pismo.
Ostrożnie. Zegareczki to na sprzedaż. Handluje pan na te zegarki?
Nie.
Pan tu nie ma co stać, panie. Ja bym tej wagi nie dał nawet samemu ministrowi sprawiedliwości.
A radia też mogę kupić. Wezmę oba.
Ładna. Ładna ta pana, ta.
Tak.
Ale co się panu stało? Zapomniał pan coś w pociągu? Jeszcze nie odszedł.
Gdyby to był facet, to bym go...
A, to taka ona. Ale co pan kobiecie zrobi? No co pan jej zrobi, panie?
Zobaczę.
Dobrze. Tak, o pierwszej. Dobrze, panie dyrektorze.
Mówi, nie wiem, po co tutaj jestem, aż po wielu latach, albo po czym. czymś takim jak młodość albo miłość. Proszę, notujemy pierwszą część refrenu. Człowiek, który mówi, nie wiem, po co tutaj jestem, aż po wielu latach, albo po czymś takim, jak młodość, albo miłość. I dalszy ciąg refrenu. Z ręką na gardle chcę wszystko naprawić. I poprawia krawat.
Deuxième épisode des aventures d'Andrzej Lechitch, c'est Walkover en 1964. Au début du film, on est dans une gare et on a ce moment très étonnant. Vous jouez à nouveau ce personnage d'Andrzej et vous êtes face caméra et on entend ce son, un peu cette voix de radio qui dit un poème. Alors ce poème, je vais le citer. Un homme dans une gare dit « Je ne sais pas pourquoi je suis là. Après plusieurs années, après la jeunesse et l'amour, il a la main sur sa gorge serrée et veut tout refaire. Il ne réussira qu'à refaire son nœud de cravate. » Et ce poème, c'est vous qui l'avez écrit, Jerzy Skolimowski, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'avant de faire cette école de cinéma dont vous avez parlé, qui est l'école de Lodz, la célèbre école de cinéma polonaise, vous étiez déjà poète. Vous aviez déjà fait du cinéma avec Wajda, dont vous avez coécrit un des scénarios. Et puis, c'était Les Innocents Charmeurs. Vous avez écrit Le Couteau dans l'eau pour Roman Polanski au moment même, je crois, où vous passiez les concours de cette école. Est-ce que c'est en poète que vous avez eu le sentiment de commencer à faire du cinéma, Jerzy Skolimowski? Et c'est Aaron Manning qui traduit vos propos.
Yes, actually, I was always quite good with words.
J'avais un certain talent avec les mots.
By the way, you were listening to the dialogues of.
D'ailleurs, les dialogues du film que vous avez entendu, malheureusement, vous ne comprenez malheureusement pas le polonais, la plupart d'entre vous. Mais c'est un dialogue assez drôle, en fait. Ça me faisait rire là en réécoutant. Sans doute parce que j'avais écrit des dialogues assez marrants et c'est pour ça qu'on m'a demandé de travailler avec Roman pour écrire à ses côtés Le Couteau dans l'eau. J'avais développé une sorte de système à moi pour écrire les dialogues dans Le Couteau dans l'eau. Il n'y avait que trois parties dialoguées dans le film.
Et
tous les deux, on jouait ces rôles à tour de rôle. Parfois, j'étais l'homme et Roman faisait le jeune homme. Moi, je faisais la fille et Roman faisait l'homme. Et à répéter comme ça le dialogue plusieurs fois entre nous. À chaque fois, on rayait tous les mots qui n'étaient pas nécessaires dans le dialogue. Et après ça, même les syllabes qui n'étaient inutiles. Parce que on n'a pas toujours besoin de la totalité des syllabes, en fait, pour être compris. Et donc, on enlevait tout. On est arrivé à un dialogue tellement minimaliste que c'était vraiment très nouveau. Voilà comment j'écrivais. Et pour mes films, j'ai utilisé bien sûr la même technique pour mes propres films, dans mes propres scénarios. Mon expérience de poète était assez utile pour ça, parce que c'est là que j'ai commencé à jongler avec les mots et appris à jongler avec eux. J'aime bien d'ailleurs en français ce mot, jongler. Je jonglais effectivement avec les mots. J'espère que cela répond à votre question.
Tout à fait, Jerzy Skolimowski. Et cette économie de mots a fait que vous faites aussi un cinéma extrêmement physique. Essential Killing, votre avant-dernier film, est quasiment sans aucun dialogue. Mais déjà, Walkover, c'est du déplacement dans l'espace. C'est vous en train de courir pour attraper un tramway, en train de sauter d'un train en marche. Le tout dans des plans-séquences. Je crois que le film comporte moins d'une trentaine de plans-séquences qui repose essentiellement sur le mouvement, votre mouvement à vous et celui de la caméra.
Jerzy Skolimowski. Well, just to finish about that minimalistic dialogue, yes,
sur le dialogue minimaliste, oui. C'est effectivement, je suis allé jusqu'au bout avec Essential Killing, où Vincent Gallo, le héros, ne dit pas un seul mot de tout le film. Il y a un peu de dialogue, d'autres personnages disent des choses, mais lui, le héros, ne dit rien.
And yes. Sorry, what was the
question? Oui, c'était quoi déjà la question?
Je vous parlais des plans séquences et du mouvement permanent qu'il y a dans vos films.
Well, you know, there is a famous saying by
Orson Welles.
Orson
Welles qui disait:
camera is the best
la caméra,
toy for a boy.
C'est le plus chouette jouet pour un enfant.
So, of course, I was using a camera as a toy.
Et donc, bien sûr, moi, j'utilisais la caméra comme un jouet.
And to play with the camera,
et pour jouer avec la caméra, c'est pas jouer avec la caméra de faire un plan statique, d'avoir une caméra immobile. Jouer avec la caméra, ça veut dire la bouger. Et donc, toujours, ça me fascinait de combiner plusieurs mouvements de la caméra ensemble, si possible même dans le même plan. Donc surtout dans Walkover, on voit que les plans séquences prennent toute la bobine de film, le maximum que l'on pouvait tourner, 11 minutes de rang. Et donc il y a dans le film trois plans de 11 minutes où la caméra va d'un long à l'autre, passe d'un rang de travelling et puis monte en l'air, vole dans le ciel. Enfin, c'était un accomplissement vraiment pour l'époque, parce qu'aujourd'hui on a des grues fantastiques, et surtout dans les films hollywoodiens. On met la caméra un peu partout pour faire des trucs extraordinaires. Mais nous, on était des amateurs, en fait, pratiquement. On utilisait nos mains, notre imagination, pour réaliser ces mouvements assez particuliers.
Bon, donne-moi une saucisse. Bon alors, tu me la donnes, cette saucisse ?
Elles sont vendues.
C'est parce que ce matin, je t'ai fait passer pour un idiot. Mais c'est que tu es un idiot. Personne ne t'a forcé, pour 20 francs, à prendre une saucisse et à la mettre dans le cul de la voiture. Allez, donne-moi cette saucisse.
Vous voulez une saucisse? Eh bien, gonflez mes pneus. J'ai des sous pour me payer une saucisse. Ces gens étaient sympas, ils m'ont filé du blé pour acheter tes bonnes saucisses.
Je suis ici comme vous me l'avez demandé. Et ceci est mon petit engin privé, très très nerveux et beaucoup plus rapide qu'une Porsche.
Ce rire, c'est évidemment celui de Jean-Pierre Léo. C'est le départ que vous avez tourné hier, c'est Skolimowski, en 1967 à Bruxelles. Première excursion hors de votre pays. Comment est-ce qu'on fait pour diriger un Jean-Pierre Léo aussi énergique, volubile, qui saute dans tous les sens dans ce film, dans une langue que vous ne connaissez pas à l'époque? Je ne suis pas sûr que vous la connaissiez mieux maintenant, le français. Comment est-ce qu'on fait pour diriger Jean-Pierre Léo, d'une part, et pour le diriger en plus, puisque vous l'avez pris avec Catherine Duport, qui jouait à ses côtés dans Masculin-Féminin de Godard. Vous avez pris Willy Curant, qui était le chef opérateur de Godard. Donc c'est comme une continuation, et ça m'intéresse d'autant plus que vous avez parlé de votre rencontre avec Godard tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait d'un Jean-Pierre Léo?
Well, I'm glad that now you heard some dialogue which
you heard. Je suis content que vos auditeurs aient entendu enfin du dialogue en français qu'ils puissent comprendre. Et ça prouve que mes dialogues peuvent être drôles.
Well, we had a specific method.
On avait une méthode quand on travaillait avec Jean-Pierre, puisque nous n'avions aucune langue en commun. Il ne parlait pas le polonais et moi je ne parlais pas le français. Notre anglais était particulièrement limité, peut-être à une dizaine de mots, droite, gauche, en haut, en bas. Donc on a décidé que je lui montrerais tous les mouvements, chaque mouvement. Et ça a fonctionné.
Je
pouvais vraiment me mouvoir exactement et lui montrer en faisant les gestes comment je voulais qu'il bouge. Et puis quand je lui ai demandé, Jean-Pierre, il faut que tu te jettes depuis la voiture par la fenêtre. Il m'a dit, ben ok, d'accord, je veux bien, si tu le fais, fais-le. Donc j'ai sauté par la fenêtre. Et donc il a dû me suivre. Et c'est comme ça qu'on a réussi cette scène très drôle. Il y avait beaucoup d'humour dans le départ, je dois dire. Jean-Pierre était essentiel là-dedans parce qu'il chopait tout, il pigeait vraiment tout et il comprenait cet humour. C'est un acteur vraiment excellent. Brillant. Très inventif. La scène avec l'aiguille qui traverse son bras, c'est lui qui l'a inventée. Moi, j'étais pas aussi brutal. J'avais pas cette brutalité-là, l'idée de proposer ça à un comédien, c'était pas moi. Mais il m'a dit, si, je peux le faire pour toi, je peux le faire. Alors, je dis, ok, vas-y. C'était une aventure.
Mais c'est un film qui est très drôle, mais qui est aussi très troublant et très émouvant, parce que comme la plupart de vos premiers films, il raconte un passage, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ce sont les dernières minutes du film. Le personnage que joue Jean-Pierre Léo décide de ne pas faire une course automobile et plutôt d'aller voir, de rester avec la femme avec laquelle il a passé une nuit à l'hôtel. Et le film se termine, ça a beaucoup frappé à l'époque, ça frappe encore maintenant, par une image figée de Jean-Pierre Léo où la pellicule brûle. On est 4 ans avant Macadam. Dame à deux voix de Monty Hellman qui va utiliser le même effet à la fin du film. Là, pour la première fois, on voit cette image brûler bien avant Monty Hellman. C'est bien ce que je dis, Jerzy Skolimowski. Comment vous est venue cette idée sidérante pour le spectateur?
Monty
Hellman m'a fait le compliment quand on s'est rencontrés par la suite. Il m'a dit, oui, je sais, je t'ai piqué, c'est ton idée. Il me l'a dit. Croyez-le ou pas, mais ça s'est passé sur le plateau, sur le tournage, pendant le tournage. Soudain, quelque chose n'a pas fonctionné avec la caméra et le film a brûlé, la pellicule. J'ai trouvé que c'était fantastique. Et on a essayé ensuite de reprendre ça artificiellement et ça n'a pas été facile. Il a fallu vraiment faire de nombreuses prises avant d'arriver à avoir l'effet désiré.
C'est souvent comme ça que ça se passe dans vos films, j'ai l'impression, Jerzy Skolimowski. Vous installez des conditions qui permettent à l'inattendu d'arriver. Il y a cette fameuse scène du miroir qui se brise dans le départ, ce qui n'était pas prévu non plus, et que la magie du cinéma va reconstituer en passant la bobine à l'envers. Vous êtes très, très attentif à ce que l'inattendu puisse survenir dans vos films ?
Oui, quelque part, je provoque l'inattendu et ces accidents. Le meilleur exemple en est dans le film Travail au noir, Moonlighting, où Jeremy Irons joue le rôle principal. La scène où il est sur la bicyclette et il s'éloigne de la caméra, il disparaît au coin de la rue, 100 mètres à peu près de la caméra. Et j'ai demandé à Jeremy, reste là 3-4 secondes et puis reviens. Parce que je vais peut-être avoir besoin de cette image de toi qui revient en bicyclette. On l'a fait, on tourne, Jeremy s'éloigne en bicyclette, il disparaît, et à ce moment-là, il y a un chat qui saute de la fenêtre, tombe sur le trottoir et il tombe sur un chien. Et là, il y a les deux se regardent l'un l'autre et pendant ce temps-là, Jeremy revient en bicyclette vers la caméra, il s'approche. Naturellement, c'était un coup de veine, une coïncidence. Et bien sûr, du coup, j'ai complètement changé le scénario. Pour ménager le fait qu'il avait oublié quelque chose de façon à ce qu'il revienne, donc. Et cette scène, ça est fantastique.
Are you keen on football? All the boys are, aren't they? Yes. One way or another. It's always tackle, dribble, dribble, shoot.
Yes, but...
Why can't you look into my eyes? Look, boy. Stop it. Stop staring at my tits. What position do you play in, boy? Where do you play?
Okay, man.
Well, it doesn't matter. They're all the same now. They're all playing all over the pitch, pushing hard, backing tight, screening the ball. Tackle, tackle, dribble, dribble, shoot. Keep your eyes up, boy. It isn't decent. Did you see Georgie Best score those 6 goals at Northampton? 6 of them. The second one, when he got his head to it, just a touch, and it flew in. Or that other one, when he dribbled across the field, a dummy, close dribble, dribble, and it shot. No, he just pushed it in, just glided it in. Slowly, just inside the post. Oh, no, you can't keep Georgie out. Oh, boy, boy, Georgie. Best. Get out. I don't need you anymore.
Croyez-le ou non, cette femme est en train de parler de football dans une cabine de bain, dans une cabine de piscine. Formidable Diana Dorse dans Deep End, votre film anglais, Jerzy Skolimowski, en 1970. On se demande souvent d'où viennent les idées pour les films. En l'occurrence, pour ce film, Deep End, c'est venu d'une image que vous aviez en tête, celle d'un diamant dans la neige. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'a commencé ce film, Jerzy Skolimowski?
Yes, it was. But let me comment on
oui,
the scene.
Mais laissez-moi un peu parler de cette scène qu'on vient d'entendre. Diana Dorse, c'était un sexe symbole de toute ma jeunesse. Une des femmes les plus belles, voluptueuses. C'était Jane Mansfield, si vous voulez. Et quand j'ai fait le casting de Deep End, pour ce rôle-là, j'ai demandé Diana Dorse. Et on m'a dit, mais non, elle ne joue plus du tout. Elle a 40 ans maintenant, elle n'est plus la bombe sexuelle qu'elle était. Et j'ai dit, non, s'il vous plaît, je veux lui parler. Elle est venue auditionner, et bon, bien sûr, ce n'était plus exactement la même femme que celle dont je me rappelais, mais quand même, très séduisante. Donc, je lui ai demandé de jouer ce rôle. Et par chance, elle a accepté. Et elle est très drôle parce qu'elle parle de Georgie Best, vous savez, le footballeur célèbre, qui, pendant un match, avait marqué 6 buts. Et donc elle parle de chaque but, et à chaque fois, elle est plus enthousiaste encore. Et elle finit presque par avoir un orgasme au bout des 6 buts qu'elle raconte. Voilà ce que la scène raconte.
Yes, the story about
Deep End
about the real life.
J'avais entendu parler d'un accident qui s'était passé dans la réalité, qu'une femme avait perdu son diamant dans la neige. Et malgré des recherches désespérées qui avaient été faites, le diamant n'avait jamais été retrouvé. Et tout de suite, ma réaction était. C'était, mais pourquoi ils ne se sont pas pris la neige et puis fait fondre? Pourquoi ils n'ont pas fait fondre la neige? Et effectivement, personne n'a eu cette idée-là. J'ai donc eu l'idée de trouver une solution pour une telle situation. Et je l'ai développée dans le scénario. Et donc, il me fallait alors trouver un lieu dans lequel la neige pouvait être fondue. Donc ça peut être dans une baignoire, ou alors peut-être, s'il y en a beaucoup, dans une piscine vide. Ou alors puis-je trouver une piscine vide, etc. Et c'est comme ça que l'histoire s'est développée.
Et c'est ce film extraordinaire, grand film mythique qu'est Deep End. Et à le revoir maintenant, et connaissant votre carrière de peintre depuis, à laquelle vous vous êtes longtemps consacré, à laquelle vous vous consacrez toujours, j'ai eu le sentiment que c'était votre premier film de peintre. Parce qu'on le voit, il y a un choix des couleurs, même dans la scène de meurtre à la fin, elle est filmée comme un acte de peintre. On projette de la peinture sur les murs. Vous avez pensé ce film comme ça, Jerzy Skolimowski ?
Non, pas en tant que peintre. C'était, j'avais vraiment une urgence, un besoin personnel de couleur. Ce que je peux dire, c'est que par exemple, quand je me réveille le matin et que je décide que j'ai besoin, que je veux peindre, je cherche mon appétit pour une couleur. Aujourd'hui, j'ai envie de jaune.
Donc,
c'est sans doute, de façon naturelle, un appétit finalement assez parallèle de faire du cinéma. Surtout pour Deep End, et où les couleurs sont vraiment très riches, le rouge et le jaune surtout. Elles sont vraiment mises très en avant, ces couleurs, d'une façon forte, oui.
Il faut voir la tête de ce petit garçon essayant de chanter des chants de Noël à la porte de ces ouvriers polonais qui sont en train de retaper au noir une maison à Londres. C'est Travail au noir, votre film de 1982, Jerzy Skolimowski. Vous parliez à l'instant de l'urgence qu'il y a parfois à faire des films. Travail au noir, c'est le film de l'urgence absolue. Il y a quelques mois à peine qui sépare l'événement qui inspire, qui déclenche ce film, c'est-à-dire l'instauration de la loi martiale en Pologne le 12 décembre 1981 et la présentation du même film au Festival de Cannes, c'était en mai 1982. Vous allez recevoir le prix du scénario. Comment est-ce que vous avez fait pour transformer le choc qu'a dû être pour vous? Vous étiez à Londres à ce moment-là, l'annonce de ce coup d'État en Pologne et sa transformation en objet filmique. Jerzy Skolimowski.
En fait, quand j'ai acheté ma maison à Londres, j'ai tout dépensé, tout l'argent que j'avais, et je n'avais plus rien pour la rénover. J'ai donc décidé d'amener une équipe polonaise de Varsovie et je les payais
en Pologne.
J'allais les payer une fois de retour en Pologne. Et donc, je savais vraiment concrètement ce que c'était que de, pendant plusieurs mois, rénover une maison. Ça, c'était l'année d'avant. Puis j'ai commencé à vivre dans cette maison confortablement avec ma famille. J'avais le journal Le Times qu'on me livrait tous les matins à la porte de chez moi. Et le 12 décembre, 81, le matin, j'ouvre ma porte, je prends le journal, je lis le Times, et à la couverture du Times, loi martiale déclarée en Pologne. Et donc, avec ce journal dans les mains, je marche vers les jardins de Kensington, à 100 mètres de chez moi, où je peux trouver un banc pour m'asseoir et lire. Mais avant d'arriver dans le parc, j'entends une voix qui parle polonais. Et devant l'hôtel, qui était juste au coin de ma rue, il y avait un groupe de 30-35 personnes avec leurs valises sur le trottoir, qui parlait frénétiquement. Donc, je tends l'oreille et tout de suite, je comprends la situation. C'était des touristes de Pologne qui devaient, ce matin-là, retourner en Pologne, après avoir tout dépensé, tout leur argent à Londres, ils n'avaient plus d'hôtel, ils n'avaient plus d'avion pour rentrer à Varsovie, et ils étaient désespérés. Je m'approche d'eux et je leur dis, voilà, moi j'habite là, à 100 mètres là, prenez vos valises, venez chez moi, et j'essaye j'essaierai de vous trouver des places chez mes amis pour vous trouver un logement. Et donc je demandais à mes amis, est-ce que vous pouvez accepter 2-3 personnes? Bref, j'ai fait un peu de distribution. Et j'arrive à peu près à trouver une place pour la moitié parmi mes amis. Et puis je prends l'annuaire. Et j'essaie de trouver les noms polonais, c'était facile. Parce que si jamais vous prenez dans l'annuaire les lettres, les noms qui commencent par S, Z, C, etc., ce qui se prononce en polonais, comme ça, je cherchais les Szczepański, les Szpolniak, les Stodre, les Sterebitch, etc. Et j'appelais des gens que je ne connaissais pas, on leur disait, bon voilà, je m'appelle Skolimowski, je suis dans une situation compliquée, j'ai des gens chez moi, je cherche une place pour eux, pouvez-vous en prendre 2-3? Et j'arrive à trouver une place pour tout le monde, presque tout le monde sauf un. Et ce type,
what's your name?
Je lui demande, c'est quoi son nom? Je m'appelle Yashkevich. Alors, écoutez, venez chez moi, tout en haut, là, de chez moi, il y a une petite chambre mansardée, et vous pouvez rester là.
Et donc,
j'attendais des fois des amis, et dès que j'écoutais la télévision, il descendait et venait voir la télévision et il voyait des images de la Pologne au journal télévisé, et ça le faisait pleurer à chaque fois. Et donc, pour l'apaiser, je lui racontais une version apaisé de ce qui se passait en Pologne à ce moment-là. Et là, j'ai compris que je me mettais dans un rôle très particulier, moralement ambigu. C'est difficile d'expliquer par les mots ce que c'est. Là, j'ai compris que je tenais un film. Immédiatement, j'ai demandé à d'autres amis de venir à moi, de s'installer chez moi et de commencer à écrire. Il y en avait un qui écrivait au premier étage le début du film, au deuxième étage, il y avait les parties du milieu. Et puis, au dernier étage, un autre copain écrivait la fin du film. Et au bout de 4 jours, j'avais le scénario complet. Et donc, tout ça, on parle de vraiment quelques jours après les événements. Et avec ce scénario-là, je vais à Channel 4 et je leur dis, voilà, je veux tourner ce film immédiatement. Ils m'ont dit d'accord. Et ils me donnent la moitié du budget. Là, je réfléchis, je me dis, comment est-ce que je peux trouver l'autre moitié du budget? Et j'ai pensé à l'acteur. Et à ce moment-là, à la télévision britannique, il y avait une série qui était très très célèbre, dont le héros était Jeremy Irons. Pas beaucoup de dialogue, mais un visage très expressif. Je me suis dit, lui, c'est celui qu'il me faut. J'ai trouvé son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Je me suis présenté et il m'a dit, oui, je connais vos films. J'ai dit, écoutez, je veux faire un film sur ce qui s'est passé il y a une semaine en Pologne. Il me dit, vous habitez où? Moi, à Kensington. Eh bien, je suis chez vous dans une demi-heure. Il arrive, je mets une bouteille d'un litre de vodka sur la table. On était deux. Jamais il n'avait bu de vodka auparavant. En tout cas, une demi-heure après, il me dit, OK, je vais faire le film. Il faut simplement que j'appelle mon agent. Il prend le téléphone, il appelle son agent et il lui dit, je veux faire ce film avec Skolimowski. Et après un temps, il écoute ce que l'agent répond. raccroche le téléphone. Il me dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais je ne peux être avec vous que jusqu'au 20 janvier. C'était un mois de là. Après cela, il devait commencer à tourner le film Betrayal, une production de Sam Spiegel, Trahison conjugale. Et jamais Sam Spiegel lui aurait donné 5 minutes de rab pour s'absenter du tournage pour tourner mon film. Donc, je me suis dit, j'ai la moitié du budget, j'ai Jeremy Irons, et j'ai un mois, à partir d'aujourd'hui, pour tourner le film. Pour commencer, il faut que je trouve l'argent, l'autre moitié du budget. Donc, je prends ma raquette de tennis et je pars dans un club de tennis extrêmement huppé,
London called Barons Court.
Barons Court,
I
à Londres.
Look who is playing there.
Et là, je regarde qui joue.
That there is Michael White,
et il y a Michael White,
theatrical producer,
un célèbre producteur de théâtre, avec lequel j'avais joué déjà. Et il m'avait battu, facilement. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il voudra... quand il va me voir, il va être de bonne humeur et peut-être que je peux faire une proposition. Et donc, je lui propose de jouer. Et on s'est mis à jouer. Et à chaque fois qu'on changeait de côté, je lui lançais une information. Quand on était à 1-0, je lui disais, ah tiens, je vais commencer un tournage. Il me disait, ah oui, super, très bien. À 3-0, il me dit, et vous avez l'argent? Et je dis, oui, oui, j'ai la moitié de Channel 4. Il me dit, ah, très bien, parce que c'est vraiment de l'argent, ça c'est sûr, leur engagement est sûr. Quand il a été à 5-0 contre moi, il me dit, vous avez un acteur? Oui, j'ai Jeremy Irons. Il a rien dit, mais ses yeux se sont écartés. Et là, j'ai commencé à jouer le meilleur tennis de toute ma vie. Je suis arrivé au tie-break et Michael a horreur du tie-break, ça l'énerve. Et donc il s'est dit, oh ben non, on arrête maintenant de jouer au tennis, mais parlons business. Et 20 minutes après, il me signait un chèque pour la moitié manquante du budget. Et on a commencé à tourner le 2 janvier, pendant 18 jours, y compris les samedis, y compris les dimanches. Et on est arrivé à tourner le film entier avant le 20 janvier. Et le 5 mai, le film était à Cannes et il a reçu ce prix.
Et ce film est absolument extraordinaire, c'est réellement un de vos chefs-d'œuvre, mais qui n'a pas dû arranger vos relations avec le pouvoir polonais à l'époque. On m'a raconté que le film a été montré à la télévision polonaise, à l'époque du régime communiste, mais comme un des films vraiment horribles, film anti-polonais affreux, comme Shoah de Claude Lanzmann.
Exactly.
Tout à fait. C'était un programme de films polonais pour montrer à la nation à quel point les Polonais sont maltraités dans les films étrangers.
Oui. Et c'est considéré comment aujourd'hui que vous vivez à nouveau en Pologne? Est-ce que c'est considéré comme un des grands films qui ont raconté ce moment de la Pologne? Jerzy Skolimowski.
Well, yes, not everybody knows about this
Tout
film
le monde ne connaît pas ce film, sans doute. C'est un film un peu ancien. Mais oui, il est considéré comme finalement un acte patriotique.
On arrive à la fin de cette émission, Jerzy Skolimowski. On n'a même pas eu le temps de parler du Bateau Phare, film extraordinaire qui va ressortir également. Je voulais savoir où vous en êtes de vos envies de cinéma. Je l'ai dit, le dernier film qu'on a vu de vous, c'était 11 minutes, il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a encore des projets de cinéma que vous avez?
Yes, I have two projects which I'm
oui,
playing in my mind.
Deux projets avec auxquels je réfléchis. Je ne sais pas lequel sera le premier que je vais mettre en route.
Who knows? I am not
Qui sait
yet ready.
Je ne suis pas encore prêt.
Wait for the wave of enthusiasm.
Il me faut trouver cette vague d'enthousiasme qui m'est nécessaire pour faire des films.
But I think it's growing now.
Mais ça vient, ça arrive.
On est très impatients.
Thank you.
don't want to work away, doing just what they all say. Work hard, boy, and you'll find one day you'll have a job like mine. 'Cause I know for sure nobody should be that poor. Say yes, sink low, because you happen to say so, say so, you say so. I don't want to work away, doing just what they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine, job like mine, a job like mine. Be wise, look ahead, use your eyes, he said. Be straight, think right, but I might die tonight. Merci
beaucoup Jerzy Skolimowski et merci à Harold Manning d'avoir brillamment interprété vos propos. On s'est quitté sur la très belle chanson composée par Cat Stevens pour Deep End. Pour en savoir plus sur Jerzy Skolimowski, on ne saurait trop vous recommander la lecture de la monographie dirigée par Jacques Daniel, Alain Keith et notre ami Marcos Uzal chez Yellow Now. Ça s'appelle Jerzy Skolimowski, signe particulier. Toutes ces informations, comme toujours, sont sur franceculture.com à la page Plan Large grâce à Pascaline Bonnet. Mais sans plus tarder, direction Hong Kong. Au commencement, il y avait le
néant. 有时摔下来就射几条闪电下来，记得意。第三日做了水，有水有植物，飞禽走兽乜都有。跟住大家就玩紧一个叫做食蛇生存游戏。第六日，佢跟住自己嘅样做咗个男人，好唔完美。跟住佢做多样嘢。 叫做女人，谂住呢个世界咁大，实装得落啩？点知连装多我都唔得。呢样嘢算系世界末日之外最失控。所以第七日本嚟谂住休息嘅，但系最后都要从头嚟过。唔单止系佢从头嚟过，系全世界都要从头嚟过。有冇冻嘢？
冻嘢个大巴里边只。
C'est rien moins que par un récit de la création que commence Time and Tide, tout en voix off, virée urbaine, récit fragmenté, saut temporel. On pourrait se croire par moments dans les années sauvages du jeune Wong Kar-wai, mais c'est évidemment bien plutôt du côté de chez Tsui Hark, autre cinéaste hongkongais, peut-être un peu moins romantique, mais beaucoup plus chaotique que Wong Kar-wai que l'on a atterri avec l'édition par Carlotta en coffret collector numéroté de l'un de ses chefs-d'œuvre, le dernier en date en tout cas, depuis que le cinéaste tourne désormais d'ambitieux et très divertissants blockbusters au sein de l'industrie chinoise, comme par exemple la série des Detective D, que j'aime beaucoup. Mais avant cela, Tsui Hark a été l'enfant terrible du cinéma hongkongais des années 80-90, un auteur complètement survolté de classiques du cinéma de genre, comme Il était une fois en Chine avec Jet Li, The Blade ou encore Zhou, les guerriers de la montagne magique. C'est un inventeur de formes insatiable, un expérimentateur tout azimut qui n'hésitait pas à bousculer en profondeur, parfois jusqu'à la limite du lisible, c'est un peu sa marque, la grammaire cinématographique. Il a un moment tenté, comme d'autres, d'infiltrer le marché américain. Il a signé là-bas deux films qui ne sont pas complètement essentielles de Pochade avec Jean-Claude Van Damme. Et puis voilà, ce Time and Tide, ce qui signe le retour, grand retour du cinéaste à Hong Kong, un polar complètement protéiforme, éclaté encore plus. Vous y voyez, Mathieu Macheret, une sorte de synthèse et un exutoire en même temps.
Oui, c'est exactement ça, Antoine, une synthèse, un exutoire. Il faut dire aussi que c'est un film, au moment où il apparaît un peu anachronique, puisque il est tourné 3 ans après la rétrocession de Hong Kong à la Chine, qui avait eu lieu le 1er juillet 97, période pendant laquelle Tuark était justement en train de tourner ses films avec Van Damme aux États-Unis. Et donc, il n'était pas là pendant cette rétrocession. Et le film amène avec lui, voilà, les 2 décennies d'expérimentation délirante et d'invention frénétique qui avait été celle de ce cinéma populaire hongkongais, hein, les 2 décennies euphoriques des années 80 et 90, portaient ça en elle. Et Time and Tide avait ça en lui aussi et marquait, sans vraiment le savoir, le chant du cygne de ce qu'avait été ce cinéma. Après lui, après ce film-là, ni le cinéma de Tuark, qui remettait le pied à l'étrier après voilà cette tentative d'infiltrer Hollywood, ni celui de Hong Kong, que le seul Johnny To maintiendrait à flot par la suite, ne seraient plus jamais les mêmes. Tout va changer après Time and Tide. D'où l'impression que le film brûle du début à la fin la chandelle par les deux bouts, épuise toutes les formes imaginables, s'essaye à toutes les acrobaties, c'est un polar complètement explosif et déborde littéralement de l'intérieur en prenant son propre scénario de vitesse. C'est un peu la particularité du film. Il place le spectateur non plus au contact d'une intrigue, mais au cœur d'une grande architecture visuelle complètement explosive. C'est d'ailleurs un polar presque impossible à résumer. Je ne vais pas m'y essayer, c'est complètement acrobatique. Ça commence comme une sorte de comédie romantique assez sauvage, un peu en berlificoté. Et puis ça continue dans un film policier, un polar d'action qui génère des affrontements toujours plus complexes et voilà des affrontements exponentiels et un véritable délire, que ce soit d'ailleurs pour filmer un couple qui fait ses courses au supermarché ou des gunfights endiablés. La caméra de Tuark accomplit une série constante de prodiges époustouflants. Elle est lancée à toute vitesse dans les dimensions de l'espace et elle décortique les situations par un montage suprématiste absolument virtuose.
Juan, él quiere hablar. El número es
9953-7653.
Pelea con Pai Ping. O de Yamjit Tingala.
O so que Pang Wu de Mufu y Hao Xiachang.
Tan a leo Jim Jiku de San Benjen con el passport de Mode Sau.
Nayo Tamiya. O Jing Sola en Chinchu. Taka Sijin Kenna Wuan. Y me tan tonga Wang. O Nika Dong Wu Fang. Diga Pai Mode Doi. Hablo Wai Mode Billy Cho. Mode Ludai.
Zuko o Pufu la Yo Tamiya.
Ce qu'on vient d'entendre là, c'est la scène peut-être la plus impressionnante du film, où on a les 2 héros qui affrontent les membres d'un cartel mexicain, c'est pour ça qu'on entend la langue espagnole, dans un de ces immenses immeubles d'habitation qui concentrent le tissu urbain de Hong Kong. Affrontement qui se déploie à travers les appartements, les couloirs, les escaliers, qui rebondit et parfois même sur la façade de l'immeuble au-dessus du vide, c'est assez hallucinant. Et on entend bien dans l'extrait, enfin il y a quelque chose qui est retranscrit par cet extrait très sonore, c'est le montage, le proche, le lointain, le chant, le hors-chant, le in et le off se relaient dans une espèce de valse vertigineuse, et ça nous dit aussi le fantasme panoptique qui est celui du film et celui de Tuark. Être partout dans le temps, comme si l'action était le mélange d'une multitude de faits et gestes simultanés qui se bousculent sur la crête de l'instant. Et c'est pas pour rien que le temps, time, est inscrit dans le titre du film. Évidemment, il s'agit de bousculer le temps. Tendre vers la simultanéité, ça signifie tordre le temps, hein, tordre l'espace, courir à perdre haleine sur cette chaîne qui relie les causes et les conséquences. Le film est une sorte de big bang cosmique d'événements. La caméra adopte des positions impossibles à travers une serrure, un barillet, à travers la porte d'un frigo. Mais il y a aussi autre chose qui se joue dans le dos de toute cette action et qui est le grand motif du film. Les personnages sont de futurs papas, de futures mamans. Ce motif, c'est la grossesse, une sorte de vie qui prend forme pendant que les gangsters et les agents de sécurité se dessoudent. C'est un cycle de mort et de vie qui construit Time and Tide. L'action extrêmement disséminée traduit le bouleversement biologique de la naissance et les hommes rejouent cette lutte élémentaire de la vie qui se fraye un passage. Hein, et le cinéma de Tuyark, à la fois chimique et d'action, trouve un lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Merci Mathieu Macheret. Time and Tide en coffret ultra collector avec moult bonus, photos d'exploitation, dossiers de presse, affiches et livrets, c'est chez Carlotta en Blu-ray et en DVD. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alex Dang. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo Bellini et Somani Na. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Christine Bernard.
Hey, hey, hey.